problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything, from city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Welcome, Silvino. Are you okay? And are you happy to be here?
I am very happy to be in the big club Tottenham.
Jusqu'à minuit, c'est l'after foot.
I want to win here, you know, before. And after that, we will see. Or we go to fish. Hein?
Timothée Mémon.
De retour dans l'after, jusqu'à minuit, on continue à dérouler l'actualité du football. Vous n'hésitez pas à vous nous appeler pour réagir, nous donner votre avis ou alors pour jouer avec nous tout à l'heure dans le quiz à partir de 23h40. On testera vos connaissances et celles de nos consultants ici en plateau.
Il faut laisser avant gagner Damien parce qu'il est nul.
Cela, avant cela...
Sérieux, il peut pas, il est sérieux ce gars, ça.
Alors écoute, tu as le droit de traverser la table.
Non, mais là...
bah, essaye,
le mec...
Oh, monsieur, c'est là. Un peu de bonne ambiance et de confraternité. On va donc tout à l'heure parler avec Fabrice Abriel de Mikel Arteta, le nouvel entraîneur d'Arsenal, qui a commencé son mandat par un nul et une défaite qui a inquiété les fans d'Arsenal, ils sont nombreux en France. Avant cela, un avis tranché, celui de Jonathan McCarthy.
Si tu avais le choix, Corinne, est-ce que tu prendrais Jonathan McCarthy avec toi?
Je crois pas, honnêtement.
C'est toujours efficace. Jonathan, tu voulais nous parler de la Saint-Etienne.
Oui, évidemment. Écoute, on avait beaucoup d'espoir avant le début de saison de la Saint-Etienne. Quand on faisait un petit peu l'analyse après le mercato, on voyait que la Saint-Etienne avait un des effectifs, à mon sens, les plus attrayants du championnat de Ligue 1. Quand tu regardais ligne par ligne, tu disais ouais, effectivement, il y a de la qualité à chaque ligne. T'as un mercato qui semble être judicieux avec les arrivées de Moukoudi, qui est un jeune talent de Ligue 2 que beaucoup de clubs, peut-être plus UP que Saint-Etienne, voulaient avoir. L'arrivée de Traoko, qui un très bon latéral, l'arrivée de Boutbouz pour reformer le duo qu'il formait avec Wahbi Khazri auparavant, et cette fois sous le maillot vert. T'avais vraiment pas mal d'espoir, t'avais cette ambiance qui semblait être apaisée avec tous les cadres qui avaient fait corps pour que Ghislain Printemps soit nommé et confirmé comme entraîneur numéro 1 de la Saint-Etienne. Et force est de constater que le début de saison a été totalement loupé avec la suite que l'on connaît, à savoir le limogeage de Ghislain Printemps, et que depuis Claude Puel a repris le club, et que même s'il a redressé, partiellement la barre d'un point de vue comptable, force est de constater que d'un point de vue du contenu, pour l'instant, c'est loin d'être enthousiasmant. Il y a beaucoup de tâtonnements. On n'a pas encore de certitude dans le jeu. C'est parfois très ennuyeux de voir les Saint-Etienne, il faut bien se l'avouer. Et c'est quand même, quand on fait un bilan à mi-saison, on est quand même dans une très grande déception, alors que cette saison pour les Saint-Etienne devait être une saison charnière, après avoir loupé de très peu la Ligue des Champions, et en étant dans un contexte où on sait que les deux actionnaires, enfin du moins un des deux, cherche à ouvrir le capital et à trouver des nouveaux investisseurs pour faire passer le club dans la dimension supérieure qui devrait être celle d'un club aussi historique que Saint-Etienne. Et le sens de mon avis tranché, c'est de dire que les 6 prochains mois qui arrivent, ils sont décisifs pour la Saint-Etienne, mais ils sont aussi décisifs pour la crédibilité des joueurs qui ont beaucoup trop parlé cet été. Et je pense à des Yanem Villa, même à des Loïc Perrin qui est réprochable, à des Wahbi Khazri, à Boutbouz qui est arrivé avec un certain statut, à tous ces joueurs qui, d'une part, alors je mets pas Boutbouz dans le lot, mais à tous ces joueurs qui ont fait front, Debuchy aussi, tous ces joueurs qui ont fait front, qui se sont mouillés pour que Ghislain Printemps reste, et qui depuis le début de la saison alignent des performances qui sont tout bonnement catastrophiques. Mais il n'y a pas d'autre mot. Quand je vois Yanem Villa jouer cette saison, c'est un vrai scandale. Par rapport au niveau qu'il avait affiché l'année dernière, qui était quand même un niveau relativement très correct, quand on voit la manière dont il a décidé de lier son destin à celui de Ghislain Printemps, et c'était pas le seul, on est d'accord avec ça, mais la manière dont il a lié son destin à celui de Ghislain Printemps et le peu d'investissement qui est mis sur le terrain sur les 6 premiers mois, je trouve ça tout bonnement scandaleux, l'attitude qu'ont certains joueurs des Verts. Et quand on voit l'effectif qu'il y a à Saint-Etienne, quand on voit l'entraîneur désormais qu'il y a, la personne de Claude Puel, qui est un entraîneur expérimenté de Ligue 1, tu te dis que il y a quelque chose qui va pas. Et moi, maintenant, sur les 6 prochains mois, j'attends que les joueurs qui ont fait n'importe quoi sur les 6 premiers mois se révèlent, réagissent enfin. Je pense aussi à des joueurs qui ont pas forcément fait n'importe quoi, mais qui ont tout simplement été aux abonnés absents, Riyad Boudbouz et Wahbi Khazri en tête. J'attends une réaction de leur part. Et la chance qu'ils ont, c'est que avec ce championnat qui est un petit peu fou où t'enchaînes une série de 3-4 victoires, tu peux faire un bond magistral dans le classement. J'espère que la seconde partie de saison, si tous ces joueurs se remettent dans le bon tempo, eh ben, que Saint-Etienne arrive au moins à accrocher une place européenne, parce que je pense que c'est important dans la construction de ce club-là, enfin, la reconstruction de ce club-là. Et j'attends aussi, sur les 6 prochains mois, que Claude Puel nous montre autre chose que ce qu'il nous a montré depuis qu'il est arrivé chez les Verts, qui se limite juste pour l'instant à, ben, je remobilise un petit peu tout le monde, j'essaie de mettre de la bonne volonté, mais parce que pour l'instant, tactiquement, on est loin du compte, et c'est très dommage, parce qu'en plus, pour conclure, en plus de ces joueurs cadres qui sont de qualité, même s'ils n'ont pas été bons sur les six premiers mois, Saint-Etienne bénéficie de quelque chose qui est une vraie chance, c'est que le club a été capable de former une génération de jeunes joueurs qui sont extrêmement talentueux, et je pense que cette génération des Verts qui a été la génération de la Gambardella l'année dernière, ce sera pas une énième génération de Gambardella qui ne confirme pas. Quand je vois Ben Kedim, quand je vois Charlaby, quand je vois ce genre de joueurs, je me dis que les Verts ont leur avenir tout tracé, et il est impératif que le club finisse européen. Donc les Khazri, les Boudbouz, les Perrin, même Saliba, parce que je trouve qu'il a pas été au même niveau que l'année dernière, les Mvilla, réveillez-vous.
Messieurs, c'est vrai que Claude Puel, à son arrivée, a d'abord commencé par resserrer les lignes, et il n'a eu de cesse de dire il y a un gros chantier. Vous êtes impatient de voir une évolution dans le chantier stéphanois? Il y en a un petit peu assez de ce discours.
Il y a une limite à la patience, et il y a une question que tu soulèves, Jonathan, mais tu es peut-être un peu dans le flou sur ta réponse. C'est on a l'impression qu'il y a une espèce de plafond de verre dans ce club depuis beaucoup beaucoup de temps. Tu as de la qualité. Tu as une direction bon an mal an qui fonctionne. Des entraîneurs, alors bon, chez Slim Printemps, c'était particulier, puisqu'on a parlé des rôles des adjoints, parce qu'il avait beaucoup plus souvent été adjoint que numéro un. Mais il y a comme quelque chose qui n'arrive pas à décoller. Un cap qui n'arrive pas à être franchi. Et je ne sais pas si tu as une réponse à ça. C'est pour ça que je parle de plafond de verre.
La réponse, elle est évidente. C'est, je pense, que la gestion bicéphale du club qui est un petit peu bordélique, et ben forcément,
toi,
ça rejaillit.
Tu mettrais tout sur la tête de Romeyer,
ouais,
et
ça rejaillit sur les performances du sportif. Et Timothée, je sais pas si tu seras d'accord avec ça, mais je pense que là, quand on regarde juste l'effectif sur la qualité, le potentiel, je pense que c'est un des meilleurs effectifs des Verts depuis 10 ans.
Alors, qui tu enlèverais de Caiazzo et Romeyer, puisque tu parles de cette
gestion? Idéalement les deux, avec un nouvel actionnaire. Après, ça, c'est à Tim qu'il faut demander. C'est lui le...
Non, ouais, enfin, nouvel actionnaire. Là, le problème, c'est que ça a été d'actualité. Et puis, voilà, on a aussi vu miroiter les droits de la Ligue 1. Et forcément, il y avait urgence de vendre. Et quand les droits sont sortis, il y avait un peu moins urgence de vendre pour les deux coprésidents. Roland Romeyer, il est fatigué. Il aimerait passer la main. Ça, c'est une certitude. Alors, Roland Romeyer, il voudra mourir sur scène, il partira pas complètement du club, mais il peut être tout à fait président de l'association.
Putain, tu nous l'as fait les références aux chansons là. Après, il venait d'avoir 10 ans et il veut mourir sur scène.
Et il a le souhait de passer la main. Le problème, c'est que Saint-Etienne, d'un côté, souhaite passer la main à un actionnaire sérieux, rassurant,
évidemment,
qui ne soit pas un actionnaire un fonds d'investissement comme ça a été le cas à Bordeaux. Dans l'idéal de Romeyer, ce serait, si possible, pas à des Chinois, pas à des Qataris, pas à des fonds d'investissement venus de destinations exotiques. Ça laisse quand même très très peu de personnes qui puissent éventuellement rentrer dans le capital de Saint-Etienne. C'est tout à son honneur, mais ça limite un petit peu les choses aussi. Après, je le dis souvent, on parle de plafond de verre. Oui, d'un autre côté, Romeyer, Caiazzo, on peut leur reprocher énormément de choses. D'abord, ils ont mis leur oseille au départ, quand Saint-Etienne en avait besoin. C'est leur argent. On n'est pas là sur des présidents placés là.
Il est délégué.
Ils ont mis leur argent, et surtout, ils ont mis ce club là pour la 9e année consécutive avec un bilan positif. C'est le seul club des 40 clubs professionnels. C'est pour ça que je défends toujours ce bilan-là, parce que c'est important quand on est Saint-Etienne. Il suffit de pas grand-chose pour qu'il vous arrive une mésaventure comme Grenoble, comme Le Mans, comme Strasbourg il y a quelques années. Il suffit de pas grand-chose. Après, le problème, c'est que pour racheter à Saint-Etienne, il faudrait que Saint-Etienne soit plus attractif. Et ça, c'est une volonté qui doit dépasser le club. C'est une volonté qui doit être politique de la région, du département, d'aider le club à être plus attractif, la ville à être plus attractive. Parce qu'elle s'enclave, cette ville, et qu'on s'aperçoit que les investisseurs viennent dans des villes marques, comme Nice Côte d'Azur, ou comme Bordeaux, qui est de fait une marque de par son nom simplement, ou alors dans des villes avec des moyens d'accès importants. Et ça, il y a une grosse difficulté. Le club a beau être un grand
Ligue 1. Saint-Étienne souffre aussi de la comparaison avec le voisin lyonnais qui s'est dépucelé depuis 20 ans.
Et juste sur l'effectif, et toi, t'en penses quoi quand je te dis que c'est un des meilleurs effectifs depuis 10 ans?
Je pense que chaque joueur, s'il est à son meilleur niveau, fait effectivement, si t'as un M. Villa au top, un Loïc Perrin comme il était il y a 4 ans, Kazri affûté, Boudbouze, c'est un peu plus difficile parce que
Boudbouze. Très affûté.
Mais aujourd'hui, tu les mets où?
Très affûté.
Tu les mets avec l'effectif qu'ils ont, tu les mets à quel place?
Moi, pour moi, c'est une équipe que, avec l'effectif, si tous les joueurs sont en forme, c'est une équipe qui doit jouer le podium.
Ah non, moi je les mets 5e maximum, quoi.
Quatrième, cinquième. Tu peux être plus ambitieux,
j'ai sûr.
Mais dans pas, ce championnat.
Mais pas avec ce qu'ils ont.
Alors dis-moi sur le papier. Je te parle sur le papier, on est d'accord. Sur le papier, qu'est-ce qu'ils ont à envier à Lille ou à l'Olympique de Marseille?
Ou à Rennes, qui est 3e.
Marseille est quand même mieux armé que Lille aussi. Attends.
Comment?
Ils ont quand même à lui envier un attaquant.
Si tu regardes
un grand joueur de Saint-Étienne, c'est d'avoir un 9.
5e, et aujourd'hui, si tu regardes, ils sont à 3 points de la 6e place. Il y a rien d'infamant. Je veux dire, t'as un championnat qui est tellement serré que t'as du mal à avoir une lisibilité dessus. Après, en revanche,
ils ont le meilleur gardien de Ligue 1. Ils ont un jeune en défense. Ils ont Perrin Saliba qui était censé la charnière, qui est quand même censé être une
star. Tu viens de dire que Perrin il est rincé.
C'est ce que je t'ai dit. Si les joueurs sont à leur niveau, pour moi, regarde, Perrin Saliba, pour moi, c'est une des meilleures charnières de Ligue 1 s'il est de son niveau.
Saliba, il faut qu'il revienne de
Ruffier blessure. C'est le meilleur gardien de Ligue 1.
Le milieu de
terrain avec M. Villa, avec Youssouf, qui est quand même,
pas mal de
belles choses. Quand tu vois, ils ont aussi à Oulu,
ouais.
Il y a quand même des beaux joueurs en milieu de terrain. C'est un milieu de terrain qui, pour moi, est un des 5 meilleurs, en termes, si tous les joueurs sont au top, c'est un des 5 meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Bah, et après, effectivement, alors t'as une palanquée de joueurs offensifs qui sont effectivement très 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 bons. Parce que je suis désolé, si Boudbouze, Kazri, Amouma,
Bonga,
ouais. Nordin sont à leur niveau. Pour moi, je vois très peu de clubs avec autant de qualité.
Ça fait quand même longtemps.
Mais je vois très peu de clubs de Ligue 1 qui ont autant de cartouches sur les côtés. Effectivement,
c'est une équipe de 6, Saint-Etienne.
S'il est si exceptionnel, et franchement, c'est un super joueur de Ligue 1, mais qu'est-ce qu'il fait encore à Saint-Etienne du coup? Il aura dû partir depuis longtemps. Mais oui.
Romain Mouma, il est gêné par un mollet de verre. C'est terrible à dire parce qu'il s'est encore blessé récemment. On lui souhaite un prompt rétablissement. Mais c'est quand même très récurrent et c'est ce qui l'a empêché peut-être de passer un palier.
Mais il a le niveau pour aller.
Après, tu vois, tu disais où est-ce que tu les situes? Moi, Saint-Etienne, à choisir, je les situe. Mon cœur a beau battre pour les Verts.
3 et 5.
Je les situe, 4e, mais je ne peux pas les situer au-dessus de Lille. Parce que à Lille, tu as recruté Osimhen. Parce que, je sais pas, même Monaco, j'ai un doute. Parce que Monaco, t'as un beignet d'air.
Il nous manque
un mec qui est capable de planter des pailles à chaque
Timothée,
match ou presque.
Tim, c'est entre 3 et 5. Donc, si c'est entre 3 et 5, tu dois avoir pour objectif, et je te dis pas pour impératif, de jouer le podium.
Tu dois viser.
Monaco est mieux armé, Lille est mieux armé, Marseille est mieux armé.
Oui, mais tu dois jouer le podium.
Donc, au bout d'un moment, on peut pas être non plus être trop exigeant avec cette équipe, et ça doit être européen.
Mieux armé,
oui,
mieux armé, c'est de la théorie. Après, mieux armé, il n'y a pas un gouffre non plus. On parle pas quand même d'un effectif qui supplanterait à ce point celui de la SSE. Moi, je trouve qu'effectivement ils peuvent prétendre aller sur la première partie du tableau, Paris étant sur une autre planète. Je pense que le départ de Cabella aussi y est pour quelque chose, dans le fait que ça manque un petit peu de liant, parce que Amouma, parce que,
et puis, on s'attendait à ce que Boudbouze fasse mieux quand même, hein.
Le Kazri, Boudbouze
venait pour
en délicatesse avec son prêt à Vigo.
C'est lui qui venait pour le remplacer.
Et Kazri, une saison haut, une saison bas. Voilà, il est pas hyper régulier. On parle même plus de Berić. Mais c'est pas un effectif qui.
C'est pas
un
Champions League.
Champions League, non.
Non, mais
non,
c'est
mais
le troisième.
Je me suis dit Monaco
doit être troisième.
Saint-Etienne peut l'être. Je me suis peut-être mal exprimé, ou peut-être que tu m'as mal compris. Mais quand je te dis la Saint-Etienne doit ambitionner la troisième place, je t'ai pas dit qu'ils avaient le niveau intrinsèquement pour être d'office troisième. Mais en tout cas, c'est un club qui doit avoir pour ambition de se battre pour le podium.
En visant d'être troisième, tu peux espérer être cinquième. Et figurez-vous que, quand vous regardez les années Galtier, avec les nombreuses qualifications, parce qu'elles ont été nombreuses ces dernières années en Europa League, Saint-Etienne a toujours su c'est un peu moche à dire, être moins mauvais que les autres. C'est-à-dire que il y avait toujours en haut les intouchables, Paris, ça a été Monaco, ça a été Lyon, ces intouchables-là. Et puis, il y avait toujours une équipe qui passait à travers. Marseille faisait une mauvaise saison, Lyon pouvait faire une mauvaise saison. Et Saint-Etienne a toujours su s'intercaler et être cette équipe qui, par une certaine régularité, d'ailleurs, c'était souvent le cas. Chaque saison, on battait toutes les équipes de bas de tableau et Saint-Etienne n'arrivait pas à battre les Cadors. Mais restait juste en dessous. Aujourd'hui, avec un budget de 100 millions, Saint-Etienne ne peut pas espérer beaucoup mieux 110 millions.
T'as pas beaucoup parlé du départ de Cabella, Jonathan.
Parce que je pense que Cabella, c'était un joueur qui a été, qui a fait une, allez, 3-4, Timothée, je me crois, si j'ai tort, mais il a fait 3-4, sur la saison dernière, il a fait 3-4 mois très très bon. Et après, il y avait quand même un gros problème qui était celui de sa complémentarité avec Kadri, où les deux, t'as l'impression que c'était pas possible qu'ils jouent ensemble. Ouais.
Bah, c'était pas possible jusqu'aux deux derniers mois. C'est un petit peu le, le souci d'Amien Périnet.
On va revenir surtout sur un truc, un détail de cette saison qui n'aurait pas en fait. Surtout, c'est la nomination de Ghislain Printemps et les raisons pour lesquelles il a été mis entraîneur. Comme tu l'as dit justement, à mon avis, c'est en rapport d'une consultation avec les joueurs. Je vais faire un parallèle avec, je suis désolé Timothée, mais avec Jean-Michel Aulas à Lyon, qui a avoué récemment avoir un peu cédé au public, aux supporters lyonnais, comparant pour le sort de Genesio. Au bout d'un moment, quand tu diriges le club, tu es obligé de prendre des décisions parfois qui ne vont pas plaire à tout le monde. Et peut-être que c'était le moment de dire à ces joueurs, M. Villa, de faire comprendre, non, Ghislain Printemps n'a peut-être pas les épaules assez solides pour être numéro 1.
Ce qui fait
que t'as 2-3 mois déjà de retard à l'allumage.
On est d'accord. Mais je pense que le vrai problème, c'est, tu l'as dit, c'est la direction. C'est qu'on sait très bien que pour la gestion, la nomination du sportif, Cazaux et Romeyer sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Il y a, il y a David Ventier qui aussi un petit peu, je sais pas avec pour quelle chapelle il prêche. Il y avait l'ancien Paquet qui s'est embrouillé. Il y a l'histoire des textos qu'on fuitait. Mais on sait, alors, du coup, cette histoire de Paquet, c'était l'année dernière, quand même, ça montrait qu'il y avait une vraie mésentente, une vraie manque de coordination à tous les étages sportifs avec. C'était qui les textos?
Avec Cazaux.
C'était Cazaux qui disait à Ventier qu'il fallait squeezer Paquet, c'est ça?
Voilà, et puis c'est
pas. Et en fait, il a pas envoyé à Ventier, en fait, il l'a envoyé à Paquet Paquet. Donc, cette histoire qui montre que.
C'est un épiphénomène, mais.
Mais ça montre bien qu'en fait, il y a un manque de coordination et de cohérence totale en termes de politique sportive. Même si Ventier gère relativement, je pense, en termes de recrutement, c'est quand même assez cohérent.
On va accueillir Romain qui nous a appelé au 32-16. Romain, merci beaucoup de nous avoir appelé. Comment vas-tu?
Eh ben, écoutez, ça va. Bonsoir à tous.
Salut,
monsieur.
Bonsoir,
Romain. Votre discussion super intéressante. Mais moi, il y a vraiment plusieurs points que j'aimerais aborder. Je vais essayer de faire vite. Premier point, déjà, le début de saison. Sur tout ce que vous avez dit, le début de saison, il a été trop important. Grosse bêtise de mettre entraîneur Printemps. Parce que Printemps, de source interne, préparation physique de merde. Excusez-moi le terme, et on paye tout ça parce que vous avez oublié de parler d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on a, je pense que vous avez dit qu'on avait un des meilleurs effectifs de Ligue 1, mais en fait, faut pas oublier qu'il y a le 11 titulaire et l'effectif. Et je pense que sur l'effectif, on est meilleur que Marseille, on est meilleur que Rennes, on est meilleur que Lille, pas sur le 11 titulaire peut-être, mais sur l'effectif et la profondeur.
Ouais, je te rejoins là-dessus. Sur le potentiel peut-être de l'effectif.
Ça joue sur un championnat.
Ouais, je te rejoins là-dessus.
Après, regardez messieurs, le 11 type de la saison, on a trop eu de blessés dû à une mauvaise préparation. Maintenant, tout ce que je veux dire, c'est que Tuel, moi c'est un mec, j'ai envie de le laisser bosser un an tranquille. Parce que ça c'est un mec, partout où il est passé, sur la longueur, il a toujours bien bossé.
Et il a construit.
Est construit avec les jeunes et fait gagner de l'argent au club.
C'est un bâtisseur.
Pour l'instant, voilà, il faut lui laisser les couilles à ce mec et pas lui casser les couilles. On fait une saison de merde. C'est pas grave. Vous savez quoi? Moi, ce mec-là, je lui fais entièrement confiance. À 100%. Donc, pour l'instant, le souci n'est pas là. Après la direction bicéphale, je suis entièrement d'accord avec vous, mais je vais vous dire, et j'ai changé d'avis cette année, le poison, c'est Cazaux. Je vous le dis. Sachez une chose, c'est Cromeyer. Il avait contacté Puel à la trêve. Quand il est parti en vacances, c'est Cazaux qui a mis Printemps en place dans son dos. Alors oui, je sais, alors, c'est quand même le bordel,
après,
mais c'est
après,
pas normal.
Romain, il faut quand même rétablir des choses aussi. Jean-Louis Gasset, qui a fait du très bon travail à Saint-Etienne et on l'en remercie, a aussi soufflé le nom de Printemps aux joueurs, aux supporters. Il a coincé un peu tout le monde.
Pour moi, Gasset, il n'a pas les cuisses propres dans cette histoire. Hein, parce que Gasset, il le sait. Si nous on le sait, si tout le monde le sait, Gasset, il sait très bien que Printemps, il n'a pas les épaules. Il a voulu placer son pote, Gasset. Mais il nous a fait du mal. Et puis Gasset, il a fait du très bon boulot. Mais à côté de ça, il n'a pas fait du super boulot avec les jeunes non plus. Ouais. On n'a pas vu beaucoup de jeunes l'année dernière. Il a joué avec beaucoup d'anciens. Et aujourd'hui, ben, ces anciens-là, les mecs comme Mvilok, qui en a pas voulu laisser partir à Fenerbahçe, et voilà, et ils nous plombent le vestiaire. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Hein. Donc aujourd'hui, Puel, ça fait 4 mois qu'il est là, il a fait du boulot bon, pas bon, mais il a beaucoup lancé de jeunes. Donc, pour l'instant, laissons-le bosser. Et surtout, on a eu énormément de blessés, je le répète, on a très 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 peu joué avec notre équipe type. D'ailleurs, on l'a pas. Donc,
ouais. Mais au moins donc, il a ramené donc, de la rigueur dans l'effectif.
Moi, je compte beaucoup sur la préparation hivernale qui va rattraper un peu tout ça, nous remettre un peu d'aplomb. Et je pense que, j'espère, mais en février, ça va aller un peu mieux.
Et je te pose une question, et à Tim aussi. Je pense qu'on va avoir un premier moment de vérité sur la suite, sur les ambitions du club. C'est s'il y a une offre de 15-20 millions qui apparemment est sur la table pour Fofana, si le club le vend, ça sera très significatif. Mais si le club le garde, ça voudra dire que le club veut quand même garder un minimum d'ambition. Mais moi, j'ai très peur qu'il le lâche.
C'est déjà mal vendu pour Saliba. Hein.
Très mal vendu, Saliba. Bah, très mal vendu.
C'est un souci récurrent, Saint-Etienne. Déjà, tu l'as vendu en deux fois, 13 cette année, 17 l'année prochaine, s'il joue 25 matchs. D'accord ? Après, il faut savoir que là, tu l'aurais gardé un an de plus, tu le faisais jouer en Europa League, tu le faisais voir, mais il en valait 50-60.
Moi, j'ai très peur que vous perdiez Fofana, les gars.
Merci Romain de très vite, on te souhaite une belle année 2020 par avance. Effectivement, pour conclure, le voir Saint-Etienne miser sur les jeunes, tu as parlé des cadres, doivent se remuer, mais il y a des jeunes qui ont gagné la Gambardella et qui doivent pousser peut-être un peu plus fort. Camara le fait.
Camara,
Fofana, je suis ravi. J'attends Belkedim, Nordin, je le mets plus dans les jeunes, mais il doit pousser aussi. Et puis voilà, Charles Abi doit prouver sur cette fin de saison. Il doit aider à porter l'équipe.
Belkedim, les fois où il a joué, il était pas mal quand même.
Non, c'est pas mal du tout.
Après, les jeunes, en fait, c'est ça le truc. On va rien leur donner. Il faut rien leur donner. C'est-à-dire que s'ils sont dans l'équipe, et ça se mérite dans une équipe professionnelle. Aujourd'hui, on a des contrats professionnels à tout bout de champ à des joueurs qui ont même pas fait 10 minutes en Ligue 1 ou en professionnel.
T'as raison là-dessus, ouais.
Donc, au bout d'un moment, tu veux une place, faut la gagner, faut le bouger, le vieux. Mais bouge-toi.
Mais ils le font, hein, je trouve. Regarde, Fofana, Camara, Belkedim, à chaque fois qu'ils sont rentrés et qu'ils ont joué. Moi, j'ai pas l'impression qu'ils aient vraiment déçus, quoi.
Non, mais ils ont plutôt été très bons. Ses dernières prestations étaient meilleures que ses premières entrées, effectivement. Mais Camara, très intéressant. J'espère qu'on va le voir sur cette seconde partie de saison. Malheureusement, on doit écourter sur l'AS Saint-Etienne. On va parler dans un instant de Arsenal et de son nouvel entraîneur, Arteta. Et puis, il y aura le Mercato Show. On parlera de la VAR en Angleterre. A tout de suite.
RMC, l'Afterfoot, Timothée Mémon.
22h27 de retour dans l'After. On va parler à présent de Mikel Arteta, le coach d'Arsenal, qui a pris l'équipe il y a deux matchs à présent, un nul, une défaite. Vous n'hésitez pas, vous nous appelez pour parler d'Arsenal, mais également pour parler de la VAR, puisqu'en Angleterre, viennent de sortir les premières grosses polémiques autour de l'utilisation de cette VAR. Alexandre Distel sera là pour nous en parler. Il y aura le Mercato Show. Et puis en fin d'émission, l'actu et le quiz avec évidemment la possibilité de vous confronter, vous auditeurs, avec nos consultants ici sur place. Et pour parler de Mikel Arteta, on a cherché à trouver quelqu'un qu'il avait côtoyé, Fabrice Abriel. Bonsoir.
Ouais, bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous, Fabrice. Alors, on sait, Fabrice, que Jonathan Macardy a besoin de vous parler, de vous dire quelque chose. Donc, on va vite épurer le sujet avec Jonathan, le titre. Allons-y.
Bonsoir, Fabrice, et merci d'avoir si brillamment pallié la blessure de Lucho González sur la première partie de saison 2009-2010 à l'OM.
Voilà. Merci. C'est gentil.
C'est vrai, vous nous l'avez presque oublié.
Pardon ?
Sur les 6 premiers mois, quand il est blessé et que c'est vous qui jouez, vous nous avez presque fait oublier qu'il était blessé. Ce qui est quand même un bel exploit.
Comme quoi, une saison, c'est tous ensemble.
Exactement.
Ouais, c'est tout un groupe. Fabrice Abriel, merci d'être avec nous. Vous avez côtoyé Mikel Arteta en 2000-2002 sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Et Mikel Arteta a été donc nommé récemment sur le banc d'Arsenal. Il avait été l'adjoint de Pep Guardiola. Est-ce que ça vous a surpris tout d'abord cette annonce et ses responsabilités données à Mikel Arteta?
Non, j'ai pas été surpris parce que son nom avait circulé avant l'arrivée de Unai Emery. Donc c'est un client, un candidat sérieux à ce poste-là après Arsène Wenger. Et comme c'est un ancien joueur des Gunners et qu'il a fait le parcours d'adjoint de Guardiola, il y avait des bonnes ondes pour lui dans ce club.
Ouais. Sur le plan du jeu, du joueur, est-ce que quand vous avez joué avec lui, vous sentiez en lui un potentiel futur entraîneur? Alors, ça ne veut pas dire grand-chose parce que Didier Deschamps est un grand entraîneur et on pouvait le pressentir. Zinedine Zidane, quand il était joueur, on ne le sentait pas forcément venir et il a de la réussite. Mais est-ce que vous voyez à l'époque en Mikel Arteta un futur entraîneur?
Non, parce que c'est sa principale qualité. Elle était surtout dans la réflexion, l'intelligence de jeu, avec sa maturité. Il est arrivé, il avait 18 ans, il était très mature, avec une bonne connaissance du football et de son football. Et c'est un peu un cerveau, mais dans l'expression verbale, bon, c'est vrai qu'il était espagnol, mais il a rapidement appris la langue française. On le sentait pas comme un leader, si vous voulez, pour haranguer ses partenaires.
Naturel,
comme
Gabriel Zeus.
Voilà. Par contre, c'est quelqu'un qui a une réflexion sur le jeu, une anticipation et il sait prévoir les coups. Donc, ce sont des qualités hein, que les managers ont besoin au haut niveau.
D'accord, mais en tant que joueur, c'était pas quelqu'un de fédérateur. C'est ça que vous essayez de nous dire. C'est pas forcément un capitaine en puissance.
Il fédère par son jeu, par sa passe. Oui. Son mode de communication, c'est le football et c'est la passe. Voilà, donc il transmet volontiers le ballon à ses partenaires, il fait briller tout le monde et il se met à disposition. Il garde souvent les équilibres. C'est pas un joueur qui va porter le ballon et dribbler 3-4 joueurs pour montrer ses qualités individuelles. Il préfère raisonner en collectif. Vous voyez? Donc en ça, il est fédérateur parce qu'il se rend utile et indispensable en fait dans ce 11.
Il faut espérer donc qu'il soit bien accompagné d'un adjoint justement peut-être capable d'être un peu plus aboyeur.
Attends. Après Fabrice l'a connu, rappelle-nous quel âge il avait quand tu jouais avec
18 ans.
Il a 18 ans.
Oui, 18 ans.
Il y avait d'autres leaders à Paris, Fred Dehu, Pochettino, Gabi Heinze.
Exactement, donc c'est une, ça, il a ce caractère hein. Mais c'est quelqu'un qui est un peu introverti dans le sens s'exprimer comme ça facilement, aisément, déconneur dans le vestiaire. Pas trop. C'est plutôt quelqu'un qui observe, qui est très calme, qui pèse ses mots. Voilà. Il est très respectueux aussi de l'environnement, etc. Et sur le terrain, s'il faut s'imposer, il s'impose. Donc je pense qu'il a des idées, il a des convictions. Ça se voit, donc, de toute façon, ça se ressent. Après, c'est quelqu'un qui commence son métier et qui va devoir s'aguerrir et apprendre aussi par la pratique, parce que la théorie, les formations, etc., même le fait de n'être que numéro 2 avec Guardiola, c'est pas quand même lui qui fait les recrutements, qui fait les choix, les plans de jeu, etc. C'est pas lui qui anime, si vous voulez, la stratégie d'avant de saison. Mais Guardiola, il a été bon parce qu'il l'a laissé partir au bon moment, pour moi, enfin, au moment où il a eu une bonne opportunité, et quelque part il l'a laissé aussi faire sur prendre les intérims, et ça pour un ça c'est plus qu'un adjoint. Souvent les adjoints ils ramassent les plots, ils animent une de séances, etc. Lui il avait commencé à s'impliquer comme numéro 1. Voilà, donc mais là on va voir ce qu'il va donner, mais c'est quelqu'un qui apprend vite. J'ai pas de soucis pour lui en tous les cas.
Fabrice Abriel, une question de Damien Perrinel pour vous.
Salut Fabrice. Justement, toi, par rapport à ce que tu disais, Guardiola, c'est lui qui avait ses idées sur le foot, plan de jeu, projet de jeu. Tu vois la terminologie qu'on emploie dans les diplômes.
Ouais.
Mais justement, le fait de prendre une équipe comme Arsenal comme ça en cours de saison, pour une première expérience en tant qu'entraîneur, alors le train, il peut passer qu'une fois, hein, c'est sûr, il a bien fait de le prendre. Mais c'est quand même pas simple hein, pour un jeune entraîneur.
tout dépend des objectifs qu'on lui fixe. Donc en fait, il va prendre une équipe, certes, qui est un peu malade, mais avec beaucoup de qualité. Et on va dire qu'il est au milieu du tableau, et pas très bien classé. Donc un peu, on se dit, bon, ben voilà, cette saison, c'est perdu. On va travailler sur ces 5 premiers mois avec ce coach, et on aura peut-être des ambitions et peut-être un temps d'avance pour commencer la saison prochaine. Ouais. Donc c'est peut-être un peu un coup en avance pour pas avoir rectifié tout d'un coup avec un mercato, etc., à gérer au mois de juin. Ils ont peut-être pris cette avance-là pour l'année prochaine. Maintenant, rien n'interdit Arsenal ou Mikel Arteta d'avoir une bonne dynamique dans un mois et de revenir sur le quatrième ou sur le cinquième.
Jonathan McCarthy.
C'est peut-être une bonne surprise.
Ouais, Fabrice, moi j'ai envie de faire une petite digression. Tu nous parlais de tes anciens coéquipiers, que tu sentais chez certains cette capacité à devenir entraîneur. Est-ce que tu as un peu suivi les aventures de Gabby Heinze, qui est entraîneur de Vélez Sarsfield et qui se débrouille très bien avec une équipe de jeunes joueurs au championnat argentin qui sont quatrième alors qu'ils n'ont pas forcément le meilleur effectif?
Alors, championnat argentin, c'est le championnat argentin. Donc, il faut bien comprendre. Gabby Heinze, il a un crédit accordé déjà en Argentine. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a fait une carrière, qui a beaucoup de titres, qui est international. Donc, il n'a pas à convaincre ses joueurs. Vous voulez, comme il était un peu Zidane à Madrid. Comprenez un peu le sens.
Ouais, il est charismatique.
Voilà, dans ce sens-là. Donc, il n'a pas à convaincre avec ses idées, ce qu'il s'est entraîné ou pas entraîné. Et puis surtout, pour être assez proche, il avait l'opportunité de venir en France sur un dossier dans un club français.
Marseille.
Et il venait pas tout seul.
Marseille.
Et il venait pas tout seul.
Ah mais c'était Marseille.
D'accord. Et il venait pas à 4 ou à 5, il venait à 8. Ça veut dire qu'il sait s'entourer et il sait, si vous voulez, mettre les gens à la bonne place. Analyse vidéo, le prépa athlétique, etc. Il a une connaissance de tout ça, mais c'est pas lui qui va faire à leur place. Donc ça, il va arriver comme un manager. Donc le club où il viendra en Europe, certainement qu'il viendra avec un staff élargi.
Tu veux pas nous dire où c'est pas Marseille?
Non, mais je peux pas vous dire parce que de toute façon, ça s'est pas fait.
Bon, c'était
et
Marseille.
Je pense que ça se fera pas.
Question,
ouais.
Et je pense que ça se fera pas parce que certainement. Il ira du côté de l'Espagne.
Ouais,
peut-être d'accord. Dans un premier temps. Sous les conseils de Bielsa et de Pochettino.
Et son équipe, elle joue, faut le dire, elle joue vraiment super bien. C'est un régal de les voir.
Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Fabrice, il y a pas au début là sur Gabby Heinze. Voilà, ouais. quand t'es entraîneur et Arteta, voilà, qui a cette réputation de beau joueur, de beau football, ainsi de suite, Gabby Heinze, qui a cette légitimité par rapport à sa carrière. Ah, mais ça, en fait, au bout d'un moment, ça dure qu'un temps. Ça dure 2 mois. Si au bout de 2 mois, tu peux t'appeler qui tu veux, si ça marche pas, ça marche pas. Et tes joueurs, même si c'est une équipe de Ligue 2, ils en ont plus rien à foutre de ce que tu vas dire.
Ça fait 2 ans qu'ils réussissent.
Ouais, mais en soi, c'est la renommée.
T'as raison, ouais.
Voilà.
Oui, certes.
Oui, pardon.
Oui, non, mais ça, c'est juste pour qu'ils gagnent du temps, pour que son message y passe. Après, il y a toute la cohérence qui va avec les mots. Forcément les idées qu'il va mettre sur le terrain, ou même si ce sont pas les siennes, même s'il a un adjoint qui est très fort sur comme l'était Gassé sur le terrain, et qu'il y a des résultats derrière, le binôme, le trio, ou ce que vous voulez, ou les 8, ça prendra tout son sens. Voilà, Laurent Blanc ne faisait pas les entraînements, n'écrivait pas les entraînements et les animait, ou alors il les gérait, mais il n'écrivait pas les structures d'entraînement ou les contenus d'entraînement. Ça faut le savoir.
Et toi,
quand pas non plus la préparation athlétique des joueurs ou de la réathlétisation, c'est du management dans les grands clubs comme ça.
On va accueillir Nicolas au 32-16. Nicolas est supporter d'Arsenal. Bonsoir, Nicolas.
Bonsoir, monsieur.
Alors, tu es avec Jonathan McCarthy, Damien Perinel, François Manardo et Fabrice Abriel, qui connaît bien Mikel Arteta, qui a joué avec lui au Paris Saint-Germain. Pour toi, quelle est ta première sensation quant à cet entraîneur? Début difficile, mais voilà, ça n'est que le début.
Bah, les débuts, à la rigueur, c'était évident que ça allait être difficile, vu le calendrier compliqué dans lequel il arrive, avec le Boxing Day et le calendrier des matchs compliqués. Mais Arteta, c'est une super nouvelle pour le club parce que aujourd'hui, à Arsenal, il fallait quelqu'un avec des idées, avec un projet, plus que de l'expérience. Et c'est exactement ce qu'Arteta compte apporter. Vraiment une idée du foot qui est quand même assez définie, qu'il a pu aiguiser avec Guardiola au fil de ses expériences en tant qu'adjoint. Et voilà, c'est ça qu'il fallait à Arsenal. Il fallait rafraîchir tout ça, mentalement, physiquement. Il fallait un homme aussi qui fasse consensus. Et c'est exactement ce qu'il fait auprès des fans, parce qu'il y a une vraie rupture entre les fans et le club aujourd'hui, qui a été consumée depuis, depuis à peu près d'un an, avec tout un tas d'événements. La finale à Bakou qui a été perdue en Europa League, l'événement Chaka et ainsi de suite. Et aujourd'hui, Arteta, c'est un homme qui va rassembler, qui va fédérer et qui a une vraie philosophie de jeu qui va être longue à mettre en place. C'est un projet clairement sur le long terme. C'est pour ça que cette saison, clairement, elle est quasiment off au terme du championnat. Par contre, il reste la Coupe, l'Europa League, évidemment. Et c'est surtout c'est un pari sur l'avenir. C'est un choix audacieux pour repartir sur des bases plus saines qui va s'effectuer avec plusieurs mois de travail et aussi des mercatos, parce que pour faire cette philosophie de jeu, il va falloir aussi que des joueurs soient changés et certains évoluent.
Ouais.
Et c'est exactement ce que Fabrice nous disait, c'est que c'était un choix qui était peut-être une anticipation pour préparer le moyen terme. Et effectivement, c'est très malin de la part des dirigeants d'Arsenal, enfin malin je ne sais pas, mais du moins c'est lucide de la part des dirigeants d'Arsenal de s'être rendu compte qu'avec Emery ça ne pouvait plus fonctionner, au lieu d'attendre bêtement la fin de la saison, de prendre les devants et de préparer l'avenir des manas.
Après, le board a quand même déjà bien tardé, hein, puisqu'on change à la suite de résultats catastrophiques. Ça faisait bien déjà 2 mois qu'on aurait pu changer. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on met Arteta dans une situation bien compliquée, puisque on l'installe avec des matchs tous les 3 jours et un Boxing Day très compliqué à appréhender. C'est des matchs lesquels on a perdu, la Brighton à domicile ou Southampton, qui auraient largement pu être gagnables et gagnés si le board avait pris la décision de se séparer plus tôt d'Emery,
ouais.
Et aussi de ne pas laisser Freddy sur un intérim un peu compliqué. Freddy Lundberg, bien sûr.
Ouais.
Merci beaucoup Nicolas d'avoir été avec nous. Bonne fin de saison avec Arsenal. Fabrice Abriel, merci d'être venu nous apporter votre décryptage.
Merci, bonne soirée à vous.
Merci Fabrice. Et encore merci pour le gros match à Lyon aussi, le 5-5. Hein.
C'est gentil.
T'es particulièrement bon ce soir là aussi.
Et bonne année 2020 Fabrice Abriel et à tous vos proches. On va revenir nous dans un instant pour le Mercato Show. Ce sera avec Alexandre Distel. On va également parler du VAR, l'assistance vidéo à l'arbitrage continue de faire débat. Cette fois c'est en Première Ligue que la polémique est en train de gonfler. Puis vous nous appelez pour nous rejoindre au 32-16 et jouer en fin d'émission. Ce sera le quiz de l'After. On revient tout de suite. L'After, c'est jusqu'à minuit, les 22h43. On va évidemment parler de la VAR en Angleterre qui fait polémique. Mais avant cela, on va parler du Mercato Show. Et Alexandre Distel nous a rejoint pour ce moment important.
Bonsoir, messieurs.
Salut.
Salut, Alex.
C'est combien ?
30 000.
Attends, je vais te le marcher. Mmh.
Allez, 27 000 avec le tam-tam.
Non, fais-moi 30 000.
Bon, allez, laisse tomber. Fais-lui, c'est 30 000. C'est un con.
Et comme quoi, en fin d'année, il y a des belles choses qui se produisent. Miracle de Noël, Saint-Stéphanois qui va faire une passe décisive à un Lyonnais. À la une du Mercato aujourd'hui, Lyon continue à s'activer pour se renforcer et un nom semble sortir du lot.
Oui, après Gamero, Thomas Lemar ou encore Nzonzi, c'est désormais le nom de Jadson Fernandes qui est débattu par le board de Lyonnais. Alors l'OL va formuler une offre au Benfica pour le jeune milieu offensif. Le club devrait proposer un prêt avec option d'achat, mais le montant de cette option d'achat pourrait justement poser problème face à l'intérêt d'autres clubs, notamment comme l'Inter de Milan. L'Élise Boët ne devrait pas accepter une option d'achat inférieure à 40 millions d'euros. Et à noter aussi que Manchester United serait aussi sur le dossier. Alors messieurs, Jadson Fernandes, est-ce que pour vous c'est le profil idéal pour l'Olympique Lyonnais ?
Quel âge ?
19 ans.
19 ans, ouais, 20 ans.
Et bah alors ça sert strictement à rien. Pourquoi là maintenant, ce qu'il faut pour l'Olympique Lyonnais, c'est des joueurs d'expérience qui sont capables, qui sont en mesure de sauver ce qui peut être sauvé sur la saison. Et c'est pas un jeune de 19 ans qui va arriver et qui va devenir un taulier au milieu de terrain. Des jeunes talentueux, tu en as déjà en la personne de Maxence Cacré. Et je pense que tu faut absolument tout miser sur un autre profil qui sera le profil d'un joueur expérimenté capable de remettre un petit peu d'ordre au milieu de terrain lyonnais.
Nzonzi par exemple qui était notamment cité.
Exactement.
Ouais. Après ça dépend de la stratégie OL. Si justement il compte sur Jadson Fernandes pour intégrer le 11, non, comme dit Jonathan, c'est une mauvaise idée. En fait, s'ils veulent le prendre maintenant et le faire progresser sur quelques années et éventuellement le revendre plus tard, pourquoi pas ? Après, je crois que Benfica est très gourmand sur la somme voulue. Et puis, c'est un jeune qui a presque pas joué. Je commente le championnat portugais. En fait, en championnat, tu le vois presque pas. Il joue presque jamais. Jusqu'en Ligue des Champions.
Et ils ont quand même d'autres priorités à Lyon en ce moment.
Ah, bien sûr. C'est ce que je te dis. Hein. Si c'est pour être dans le 11, non, c'est pas la peine. C'est parce qu'ils ont pas
besoin. C'est clair. On est d'accord.
Il est pas capable de remplacer Reine Adélaïde?
Bah, René Adélaïde, est-ce qu'il est vraiment dans le 11?
Non, mais déjà.
Bah, René Adélaïde,
c'est quelqu'un qui peut jouer 6. Vraiment dans un milieu à 2 à 6 ou alors un peu plus haut en position axiale.
Ah, 8, ouais. Est-ce qu'il peut vraiment jouer vraiment devant la défense sentinelle pure et dure?
Mais non, bien sûr que non, mais
il
est pas fini physiquement, on le voit que c'est encore qu'il est assez maigre, assez mince, il a beaucoup de football, c'est sûr. Il a pas terminé
cette saison. Toi qui es lyonnais, dis-nous ce que tu veux.
Moi, pourquoi pas, sincèrement, parce que je trouve que ce serait un profil idéal pour remplacer justement Jeffrey Adelaide qui est forfait jusqu'à la fin de la saison. Après, je te rejoins aussi sur l'avis du profil expérimenté. Pour moi, c'est aussi un joueur qu'il faudrait recruter. Voilà. Il y a la question des jeunes.
S'il est capable de jouer 6, est-ce que c'est pas en train de nous dire en creux que finalement l'offre du Hertha Berlin pour Touzard pourrait être acceptée?
Alors moi, personnellement, Touzard, j'aimerais le conserver.
Offre à 25 millions pourrait être réalisée moment-là. Si tu mets les 25 millions sur Jetson, ça fait plus que 15 et c'est un pari sur l'avenir.
Mais au final, tu te renforces pas parce que tu perds un joueur, t'en récupères un autre. Et t'as toujours un peu au milieu
de
terrain.
De ce que nous dit Damien, c'est pas du tout le même profil en plus.
Ouais, non, après, ce serait pas pour.
Il te faut un vrai numéro 6 pur et dur et c'en est pas un.
Pendant ce temps-là, un ancien Lyonnais est en passe de prolonger avec le Real.
Oui, le Real Madrid sera a priori en discussion avec Karim Benzema pour prolonger son contrat qui expire dans un an et demi. Alors, il s'agirait d'une prolongation pouvant aller normalement jusqu'en 2022 ou bien peut-être jusqu'en 2023. Pour l'instant, du côté de l'attaquant de 32 ans, l'heure serait à la réflexion.
Ouais, messieurs, Benzema, une carrière exemplaire finalement sous les couleurs du Real.
2022 ? Ouais, normalement.
Ouais, ça fait 13 ans avec le Real, c'est respect, hein.
Moi, j'aimerais qu'il revienne à Lyon, à un moment ou à un autre, qu'il aille au bout de son contrat et qu'il revienne à Lyon. Je trouve que ça serait vraiment boucler la boucle d'une manière extraordinairement jolie.
Ah, l'histoire serait belle.
Ouais.
Mais faire ça, tu peux prendre que des coups à revenir dans ton club formateur. Si t'es pas bon, les gens vont reconnaître ta carrière. Si tu peux finir justement dans le plus beau club du monde comme au Real, c'est exceptionnel comme carrière.
Oui, mais on est français, on suit la Ligue 1. S'il revient, on sera content quand même. Ouais. Hein.
Toujours en Espagne, une porte de sortie pour un joueur du PSG.
Oui, en manque de temps de jeu du côté de la capitale, Julian Draxler pourrait rejoindre après le FC Séville. Alors l'international allemand aurait en effet les faveurs du club andalou. Des premiers contacts auraient même été établis pour le convaincre de rejoindre l'Espagne cet hiver. En revanche, le salaire de Draxler, qui est estimé à 600 000 euros par mois, poserait problème.
Et on l'envoie partout, Julian Draxler.
Ouais, parce qu'il y a l'euro.
En Allemagne, en Italie, en Espagne.
C'est tout bête. Il y a l'euro à la fin de la saison. Lui, il doit partir du Paris Saint-Germain dans son intérêt. Ça sera pas une grosse perte pour le Paris Saint-Germain et c'est dans l'intérêt de Julian Draxler de quitter.
Alors c'est pas une grosse perte pour ce PSG, ouais, mais après ça reste une bonne pioche pour un club d'un autre standard qui pourra se l'offrir. Mais là, bon,
c'est pas un running gag, mais est-ce qu'il pourrait pas remplacer Jeffrey Adelaide?
Bah si. Mais le problème, est-ce que Lyon est capable de prendre en charge les 600 000 euros mensuels?
Là, ce serait ambitieux.
Est-ce que ça rentre vraiment dans la. Ouais.
Et surtout, est-ce que Draxler aimerait rejoindre l'OL?
Ouais. En plus.
À voir, pour avoir du temps de jeu en vue de l'euro, pourquoi pas.
Valence. Temps de jeu, 8e de Ligue des Champions.
Ouais. Valence prêt à faire signer un de ses anciens joueurs.
Il est parti l'été dernier de la Juventus pour Manchester City. João Cancelo pourrait retourner en Espagne. En manque de temps de jeu en Angleterre, son ancien club Valence serait prêt à passer à l'offensive pour rapatrier le latéral droit. En revanche, du côté de Pep Guardiola, l'entraîneur des Citizens, lui, ne serait pas forcément favorable au départ de son joueur.
Pas un peu du gâchis ce joueur. Il avait été excellent avec la Juve. Il disparaît. Là, s'il retourne à Valence, c'est quand même un petit peu faire trois pas en arrière.
Bon, c'est pas trois pas en arrière. Après, il est meilleur que Daniel Vaz, mais Daniel Vaz, il est difficile à bouger à Valence. C'est un titulaire, qui est pas indéboulonnable, mais quasiment.
Quelle belle carrière il fait en Espagne, Daniel Vaz, quand même.
Ouais, Vigo, Valence.
Parti, Javi Antonon Gaillard, on était tous persuadés que c'est un putain de joueur et on est tous étonnés que Lyon, Marseille, Monaco ne se positionnent pas dessus. Il fait une très belle carrière en Espagne.
Retour en France où une jeune pépite de Lille est convoitée.
Alors il s'agit du jeune milieu de terrain Cheick Nias. Alors trois clubs se sont positionnés, Rennes, Watford et Mayence. Alors des discussions ont été entamées par ces trois équipes, mais le LOSC n'est a priori pas vendeur. En fait, il souhaiterait faire du joueur de 19 ans le remplaçant de Boubacary Soumaré, qui pourrait lui en revanche être très probablement quitter le club nordiste dès cet hiver.
Cet hiver ?
Ouais.
Ok.
Là, dans la logique de trading du LOSC, c'est un. Vous comprendriez de le lâcher comme ça, disons, alors que finalement, on l'a pas vu.
Non, non, justement, la logique de trading voudrait qu'il soit mis un peu plus en lumière avec en vitrine, l'équipe première, sur une demi-saison ou une saison complète.
Une demi-saison, ça peut suffire, hein, regarde Léao.
Ouais, et puis l'arrière-gauche connaît aussi à Lyon. Ouais.
Alexandre nous parle d'un départ possible de Soumaré, ça ce serait un coup dur, puisque c'est un joueur qui est un titulaire, peut-être pas un déboulonnable, mais qui est un titulaire du 11 de Galtier.
Mais si il va le garder, le jeune dont on en parlait à l'instant, qui pense qu'il fait la maille, moi je veux juste que ce que les miracles que fait la cellule de recrutement et la cellule de gestion sportive de Campos, je leur fais confiance à 10 000%.
Après, on a vu par le passé que, par exemple, avec Raphaël Léao, dès qu'il y a un gros chèque qui arrive sur la table, ils sont plus très regardants.
Bah, exactement, ouais. Et au final, Osimhen est arrivé. Il plante des buts. Ouais. Et c'est pas en parlant de Lille, est-ce que t'as eu des nouvelles de l'IAGI à Lille?
Alors, pas du tout.
Ça va, c'est bon signe alors.
L'IAGI, le joueur de l'Olympique de Marseille, le prometteur joueur de Marseille qui effectivement voit les sirènes de Lille de plus en plus fortes se signaler à lui.
Le joueur dont on parle et qui n'a pas fait un match 10 minutes en pro, c'est ça?
Ouais.
Ouais, voilà.
Mais qui a montré
très belles
choses et qu'on a quand même envie de voir sous le maillot de l'Olympique professionnel en Ligue 1 pour être sûr.
Bien sûr,
voilà,
sûr. Mais
je t'ai pas dit pour juste pour savoir.
C'est dingue qu'on parle de lui encore comme ça, quoi. C'est ça qui me dépasse.
Regarde, on faisait la même chose avec Bouba Camara et au final on est content qu'il ait signé à l'OM. Ouais.
Et Jenson Fernandez pourrait valoir 40 millions.
Peut-être.
Allez. Donc finalement, c'est qu'on est dans une logique.
Mais Bouba Camara qui avait moins de hype que l'IAGI et Maxime Lopez aussi, au final, on est content qu'il soit avec nous, quoi.
Une nouvelle recrue pour le FC Metz.
Ouais, les Grenats ont en effet enregistré l'arrivée de Vincent Pajot en provenance d'Angers. Alors, le milieu de terrain débarque pour un prêt de 6 mois avec une option d'achat.
Cornier, Coad, Pajot, messieurs, quand ça sentir la Saint-Etienne d'il y a quelques années, cette équipe de Metz?
Ouais, après sur ce recrutement de Pajot, je suis pas plus que ça surpris parce que c'était je pense un profil dont Metz avait besoin, expérimenté en Ligue 1, parce qu'on voit beaucoup de naïveté chez cette équipe messine. Ces joueurs, ça va de l'avant, mais parfois, voilà, il faut savoir aussi dans leur position être un peu plus.
Dans avec compagnie, exactement.
Ouais, tu n'oserais pas parler il y a une semaine ça de Pajot à Metz? Il me semble, hein. Ouais, quand on avait fait le débat sur les 5 derniers de Ligue 1, tu voyais bien Pajot renforcer un de ses effectifs.
J'ai une révélation à faire, c'est moi qui fais le recrutement du FC Metz.
D'accord. Voilà. C'est pour ça que tu fais là maintenant.
C'est la blague, hein. J'ai pris les ondes, bien sûr.
T'es sous les ordres. T'es sous influence.
Je m'étouffe. Pajot, messieurs, pour Metz, pour les aider à se maintenir.
C'est très bien.
C'est une bonne solution.
Très, très bien. Expérience, tout, c'est très bien.
Ouais, et on est en train de perdre Timothée Mémon.
C'est bien, je vous dis.
On t'a dit Pajot à Metz, c'est très bien, c'est l'expérience. Pour cette lutte si particulière qu'est la lutte pour le maintien, c'est une recrue de très bonne qualité.
On parlait des Nguet, de ces jeunes joueurs Boulaya du côté de Metz qui avaient besoin d'être encadrés. Il a le charisme, il a en tout cas la légitimité.
Charisme, je ne sais pas. Tu connais sûrement mieux que nous, mais en tout cas l'expérience, oui.
Oui, c'est pour ça que j'ai ajouté la légitimité parce que ça me semblait plus approprié que le charisme. Même si c'est un super gars, Vincent Pajot, on le salue.
Très bien.
On termine avec Préjus Nakoulma qui rebondit en France.
Ah. Oui, l'ancien Nantais va signer du côté de l'US Orléans, libre depuis la rupture de son contrat en Turquie. L'attaquant de 32 ans va trouver donc un nouveau point de chute du côté de la Ligue 2.
Bonne chance à lui.
Et pour terminer sur ce mercato, messieurs, Zlatan Ibrahimovic sera présenté demain au Milan AC. Vous êtes impatient? Enfin, je sais pas, moi, je vois ça un peu comme un show, quoi. Je suis curieux de voir ça, un peu comme le dernier Star Wars. Je me dis, il va se passer un truc, quoi.
On attend les Zlataneries.
Moi, je vais faire mon coming out parce que ça a été un petit peu gâché par le fait qu'il signe au Paris Saint-Germain, mais je pense que c'était mon joueur préféré avant qu'il signe au PSG. Jouer. Juste parce que j'aime bien sa personnalité. Je trouve qu'il en fait beaucoup dans les médias, mais il assume sur le terrain, il parle beaucoup, mais en anglais, on dit, il écrit des chèques que lui, il peut encaisser, qu'il peut se faire encaisser, quoi. Et même si, effectivement, il va se réveiller par rapport à la Ligue des Champions, c'est une personnalité qui est hors norme, et on en a trop peu, je trouve, dans le monde du foot actuel, qui est, quand on voit les deux extraterrestres que sont Messi et Ronaldo, qui est, même s'ils sont très forts sur le terrain, c'est quand même beaucoup trop assez aseptisé à mon goût.
François Manardo, tu as été à la communication de l'équipe de France. Tu sais ce que c'est que de la com. Là, ils sont comment les gens de la com du Milan AC? Il faut être
T'as besoin de rien faire. Bah ça, c'est tu bois du petit lait.
T'appuies sur le bouton, il a.
T'as pas peur qu'il te fasse une sortie en disant que le Milan AC avant lui, ça n'existait pas?
Et ce qu'il ne dira évidemment pas, parce que quand tu te balades dans la salle de trophée du Milan AC, tu comprends à qui tu as affaire. De toute façon, il avait aussi tort de le dire pour le Paris Saint-Germain. Mais c'était du Zlatan et avec, non, t'as rien à faire.
Et surtout, j'insiste là-dessus, c'est que Damien et François et Pinet étaient sceptiques là-dessus. Mais je pense que le Milan AC, c'est le seul club envers lequel il a montré du respect.
Oui.
C'est le seul club qu'il a vraiment aimé, alors qu'il a joué à l'Inter, il a joué à la Juve. Oui. C'est le seul club, le Milan, où il a dit Max. J'aime ce club.
Non,
c'est
mais même regarde la situation avec Malmö.
Il aime ce club, il va jouer à l'Inter.
C'était avant, c'était au début.
Ah ouais, mais
non, c'était au début. Mais c'est pas comme s'il avait fait l'inverse. C'est pas comme s'il avait fait l'inverse.
Non, mais
c'est pas comme s'il avait fait du Milan à l'Inter.
T'as parfaitement le droit de passer de l'Inter au Milan AC.
Non, mais c'est pas comme s'il avait fait du Milan à l'Inter.
Il a fait le coup avec tout le monde.
Non, jamais. Non, jamais. Jamais.
Mais tu vois, je suis d'accord avec Jonathan là-dessus. Et je regarde aussi la situation qui est la sienne à Malmö, que tout le monde connaît. Donc il a investi dans un autre club que son club formateur, qui est le club d'Amarby. Il a une statue, vous imaginez, de son vivant à Malmö qui est en train d'être détériorée parce qu'il s'estime être trahi. Il a un rapport affectif très 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 particulier avec tous les clubs qu'il a connus. Mais c'est vrai que le Milan AC, il faudrait peut-être que lui ou sa femme nous l'explique, il a une relation juste différente.
Parce que Zlatan, aussi grande gueule qu'il soit dans les médias, c'est un petit peu un canard dans son couple. On sait qu'il porte le slip entre lui et sa femme. Et sa femme, elle était très très heureuse à Milan et elle s'entendait bien avec l'état-major du Milan AC.
Milan, c'est l'Inter.
Non,
et Milan AC.
Elle s'entendait aussi très bien avec l'état-major du Milan AC, avec les autres femmes des autres joueurs. Et je pense que ça joue aussi dans son appréciation sur le fait que le Milan AC ait une place particulière dans son cœur.
C'est vrai que les Zlatan l'ont toujours dit, les Ibrahimovic plutôt, étaient très heureux à Milan, au-delà de l'aspect purement sportif.
Mais il a laissé une trace affective au Milan, par exemple, il n'a pas laissé à Paris, malgré son succès immense dans la capitale. Alors que Cavani, non seulement il a supplanté dans les statistiques, mais il a aussi supplanté dans le cœur des supporters.
Ouais, parce qu'à Paris, encore une fois, je me répète, mais au Milan, il n'a jamais montré la défiance qu'il a pu montrer envers le Paris Saint-Germain. Tu ne l'auras jamais entendu dire une remarque du genre « la seule chose qui manque à Paris, c'est mon salaire ».
C'est spécial.
Quand tu parles du Milan,
c'est spécial, ça, en relation avec le PSG. Et son arrivée avec le PSG.
Bien sûr.
Souvenez-vous, c'est lui-même qui l'a confessé. Il avait mis des clauses qu'a priori, il pensait aucun club l'accepterait. Mais il se trouve que Leonardo et Paris l'avaient accepté. Donc il était dans l'obligation de venir.
La preuve aussi de la puissance de l'institution Milan AC.
Attends, merde, je vais chialer parce que Zlatan a été obligé de venir à Paris. Là j'ai mon petit cœur.
Bah, tu sais que.
Non, mais
Thiago Silva, il a dit Thiago Silva. Thiago Silva, lui, pour le coup, il a vraiment pleuré.
Damien, toi t'es un Français, le PSG ça représente quelque chose pour toi, mais il faut quand même appeler un chat un chat. Sorti de la France, le Paris Saint-Germain, avant que les Qataris n'arrivent, avec sa seule coupe des coupes, ça a pas un poids énorme. C'est pas inscrit dans l'histoire des autres Européens comme ça l'est pour les Français.
Vous aurez du mal à me convaincre avec Zlatan.
Non, mais c'est
l'effet.
C'est sa sincérité envers
les supporters des clubs pour lesquels il a joué.
On t'a dit avec aucun club, mais juste avec un seul.
Regarde, même Malmö.
Voilà qui est dit. Merci messieurs sur Zlatan, comme quoi les personnalités clivantes, ça fait débat. On aura l'occasion d'en
reparler. Mais c'est moi.
Alors les gens qui viennent, on revient dans un instant à parler de la VAR, toujours avec Alexandre Distel. À tout de suite.
RMC, 21h minuit. L'afterfoot.
Problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything. From city traffic to ocean plastic. New schools to new energy. Flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.